Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette dernière émission des Récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour redécouvrir la Bible d'une façon inhabituelle. Si on vous demandait qu'est-ce qu'il y a de plus insolite dans la Bible, qu'est-ce que vous répondriez? Ben moi, je parie que vous auriez probablement le livre de l'Apocalypse en tête. Et c'est justement, lors de cette dernière émission, on va justement creuser ce sujet-là du livre de l'Apocalypse et on va s'y introduire et on va porter une attention particulière à la fameuse bête de l'Apocalypse avec le chiffre de 666. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus tard dans l'émission. Et il va y avoir une question qui va être comme un fil conducteur. En tout cas, je vous invite à le garder en tête un peu tout le long de l'émission et à la fin, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. L'Apocalypse, est-ce que c'est un livre de destruction ou un livre qui est porteur d'espoir? On écoute et on va essayer de trouver la réponse à cette question ensemble. Dans ce dernier épisode de la série, j'aimerais commencer par saluer tous ceux et celles qui nous ont suivis depuis le début et aussi ceux qui ont embarqué en cours de route, parce que c'est pas toujours évident de sortir des sentiers battus et de se pencher sur des textes qui sont un peu plus obscurs dans la Bible. En tout cas, j'espère que, comme moi, vous en sortez avec une expérience, une belle expérience qui vous apporte une meilleure compréhension de la Bible et surtout un intérêt renouvelé pour ce livre-là. De voir qu'il y a toutes sortes de récits qui s'y trouvent et que ce livre-là, c'est très important, c'est le fondement de la foi chrétienne, il faut le comprendre. Et bon, on a utilisé ces récits insolites-là comme une porte d'entrée pour mieux les connaître. Alors, normalement, à ce temps-ci de l'émission, je prends le temps de répondre ou de lire certaines questions ou commentaires, mais bon, le temps de la fin est proche, surtout avec l'Apocalypse. Je vous suggère qu'on plonge directement dans l'objet de notre étude, le livre de l'Apocalypse. Petite anecdote personnelle, je peux vous dire que c'est le premier livre biblique que j'ai lu au complet. J'avais alors 12 ans, un jeune adolescent, secondaire 1, et comme tous les autres gars de cet âge, j'aimais bien tout ce qui était violent, étrange, bizarre, et je me suis mis à lire la Bible comme ça, avec le livre de l'Apocalypse. Et je vous avoue que j'ai absolument rien compris. Je me demandais si c'était quelque chose qui s'était passé avant, qui allait arriver plus tard. C'était pas très très clair pour moi, puis il y avait toutes sortes d'événements qui étaient décrits. Je comprenais pas tout ça. Mais ça m'avait fasciné quand même. Tous ces symboles-là, cette violence, on voit pas ça ailleurs dans la Bible, puis ça m'étonnait. Puis je disais, ben pourquoi on lit pas ça les dimanches? Alors bon, ça a commencé à m'intéresser au secondaire. Mais maintenant, on va s'y attarder peut-être un peu plus sérieusement. C'est quoi ça, l'Apocalypse? Bien, c'est le dernier livre de la Bible. Si vous avez une Bible en main, allez à la fin, vous allez le trouver. Et c'est un texte qui, en effet, nous semble incompréhensible. En tout cas, dans une première lecture, pour quelqu'un qui vient juste de l'ouvrir, qui n'a jamais entendu parler, il va lire ça, il comprendra pas tout de suite. Alors, je suis pas le seul, lorsque j'étais adolescent à 12 ans, à ne pas comprendre. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce texte-là. Et d'ailleurs, même chez les premiers chrétiens, au premier siècle, quand on mettait tous les textes ensemble pour former le Nouveau Testament, bien, l'Apocalypse ne faisait pas l'unanimité. Il y a certains regroupements, certains groupes de chrétiens, certaines églises qui disaient « Nous, on aime bien ça, les évangiles, les lettres de Paul, ces autres lettres-là, mais non, nous, on ne mettra pas l'Apocalypse dans notre canon d'écriture, dans notre Bible. » Puis d'autres, oui. Alors, il y a eu un débat autour de ça. Finalement, l'Apocalypse est entré dans le Nouveau Testament un peu plus tardivement que les autres textes, mais ça fait partie de notre Bible. Alors, on s'y attarde, on essaye de la comprendre. D'abord, une chose à dire, c'est que l'Apocalypse, c'est pas un récit. C'est pas une histoire qui a un début puis qui a une fin. C'est plutôt à lire comme différents tableaux. Les différents chapitres, des fois, il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. C'est des visions qui nous sont présentées et on les voit. On va d'abord s'intéresser à l'introduction du livre, le début, les premières lignes du texte, pour essayer de connaître un peu son auteur, parce qu'il va nous parler de lui et il va nous parler de son projet. On va voir là-dedans c'est quoi ce genre littéraire-là de ce texte pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plonger dans un texte encore plus insolite concernant les bêtes de l'Apocalypse. Alors donc, je vous présente le début du texte du livre de l'Apocalypse. Je vais vous lire Apocalypse, le chapitre 1, les versets 9 à 19. Alors voici donc la manière dont l'auteur se présente. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix puissante, telle une trompette, qui proclamait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, d'une ceinture d'or lui serrant la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset. Et sa voix était comme la voix des océans. Dans sa main droite, il tenait sept étoiles, et de sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants. Son visage resplendit, tel le soleil dans tout son éclat. À sa vue, je tombai comme mort à ses pieds. Mais il posa sur moi sa droite et dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Je fus mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. » Ça se retrouve dans l'Apocalypse, au début, chapitre 1, les versets 9 à 19. On voit dans cet extrait-là que l'auteur va d'abord se nommer. Il dit qu'il s'appelle Jean. On a même l'indication qu'il est sur l'île de Patmos, en Grèce, aujourd'hui. Et une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que c'est le même Jean que l'Évangile de Jean? Il n'y a rien qui nous laisse entendre que oui. Il y a quelques petits symboles qui se ressemblent, mais dans le grec qui est utilisé, c'est pas du tout la même façon d'écrire. Et les exégètes d'aujourd'hui auront plus tendance de dire que c'est un autre Jean qui habite à Patmos, puis c'est pas nécessairement le même que pour l'Évangile. Donc, l'auteur s'appelle Jean, il est à Patmos, c'est un chrétien. Il nous livre ce qu'il a vécu, c'est une expérience, c'est une vision. Et on peut dire tout de suite qu'il s'agit d'une expérience particulièrement surprenante, bizarre, même anormale pour nous. Pourtant, pour celui qui écrit ce texte-là, pour les communautés chrétiennes qui vont s'en servir, qui vont le lire, le livre de l'Apocalypse fait sens pour eux. Il leur parle de leur foi chrétienne, mais il le fait d'une façon complètement différente des autres écrits du Nouveau Testament. Dans l'extrait que je vous ai lu, là, qui a été présenté, Jean est saisi par l'Esprit. Puis, il entend nous raconter ce qu'il voit, ce qu'il entend. Et dans la façon de nous décrire cette première expérience, on peut noter déjà qu'il y a plusieurs phénomènes impossibles à comprendre de façon littérale, en tout cas de façon habituelle. Avez-vous déjà entendu une voix qui sonne telle une trompette, mais dont on comprend ce qu'elle proclame? Puis quelques versets plus tard, cette voix est comme les océans. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le personnage qu'il voit, comment fait-il pour tenir sept étoiles dans sa main droite? Comment pouvait-il parler alors qu'il avait dans sa bouche un glaive acéré à deux tranchants? On ne peut pas comprendre ça. Alors, c'est évident que l'Apocalypse, c'est pas à prendre au niveau historique ou factuel. On est dans l'ordre des images, l'ordre du symbole, de la métaphore. Mais encore faut-il essayer de comprendre ces symboles, ces métaphores-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il utilise des symboles? Des symboles, c'est quoi? C'est une réalité visible, c'est accessible au sens, un symbole. Puis ça invite à découvrir des réalités qui sont, elles, invisibles, d'essayer de comprendre ce qu'on ne peut pas voir. Le livre de l'Apocalypse emploie donc des symboles pour désigner des réalités abstraites qui ne sont pas visibles de notre monde, mais que Dieu révèle par les visions qu'il a accordées à Jean de Patmos. Dans l'Antiquité, vous savez, il y a d'autres livres qui utilisent ce même genre littéraire qu'on appelle le genre littéraire apocalyptique. Même dans la Bible, on en retrouve. Dans l'Ancien Testament, il y a Daniel, Ézéchiel, Joël, Zacharie et même les chapitres 24 à 27 du livre d'Isaïe. Et encore plus, en dehors de la Bible, il y a d'autres textes qui s'écrivent dans le peuple juif à cette époque-là qui n'ont pas été retenus dans la Bible, mais qui aussi utilisent ce genre littéraire apocalyptique qui était quand même assez populaire aux époques où il y avait des grandes difficultés, là. Dans ce genre littéraire-là, on retrouve tout le temps un homme de Dieu qui partage une vision qu'il a reçue. Alors, c'est différent. Nous, on est surtout habitués de lire des passages qui parlent de prophètes qui ont entendu la parole de Dieu. Mais ici, c'est pas une voix qui a entendu, mais plutôt une vision qu'il a eue. Alors, c'est un autre genre. Et pour témoigner de sa vision, bien, il va faire des descriptions d'images, de symboles, comme on l'a déjà dit. Et d'ailleurs, le mot grec « apocalypsis » signifie « révélation ». Le livre de l'Apocalypse, c'est donc celui qui révèle le plan de Dieu aux chrétiens. Alors, ça nous révèle ce qui est invisible, dans le fond. Bon, maintenant qu'on est introduit au livre, on va pouvoir aller vers quelques passages plus intéressants. D'ailleurs, on va aller voir celui qui concerne la bête et le fameux chiffre 666. Mais pour s'y rendre, je vous propose un extrait musical, peut-être un peu différent des autres extraits musicaux qu'on a entendus au long de la série. J'ai pris quelque chose qui est écrit par Peter Gabriel, qui provient du film The Last Temptation of Christ, un film qui, comme l'Apocalypse, joue beaucoup sur les symboles et tout ça. Alors, on écoute cet extrait et on revient à l'Apocalypse. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Aujourd'hui, on parle de l'Apocalypse. On vient de s'introduire à ce genre littéraire un peu particulier et aux visions de Jean de Patmos. Après cette introduction, tel que promis, là, c'est le temps de s'intéresser à un des passages les plus intéressants, c'est les bêtes de l'Apocalypse. On retrouve ça au chapitre 13 et on va avoir la lecture des versets 1 à 18. Donc, je crois que c'est le chapitre 13 au complet. On écoute ça et on en parle tout de suite après.
Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, un nom blasphématoire. La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et l'on adora la bête en disant « qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ». Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux dont la demeure est dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils l'adoreront tous ceux qui habitent la terre. C'est le moment d'avoir du discernement. Celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre est 666.
Plus qu'insolite, ce texte est pratiquement délirant. Pourtant, il faisait sens pour ceux qui l'ont écrit. On va essayer de découvrir qu'est-ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que l'Apocalypse, c'est pas juste un livre de destruction, de feu, de sang, mais plutôt un livre d'espoir. Il s'agit de l'espoir des chrétiens qui étaient, à l'époque, qui étaient persécutés par l'Empire romain. Alors, ils mouraient à cause de leur foi à la fin du 1er siècle. Et ceux qui les tuaient, ben, c'était les Romains, c'était les empereurs, les persécutions, etc. Puisqu'ils se faisaient persécuter par les Romains, Bien, leur seul espoir, parce qu'il n'y en avait pas d'autre, c'était que le Christ revienne et bouleverse complètement l'ordre du monde, qui change tout. Que les puissants qui tuent les chrétiens vont, à leur tour, ils vont être renversés par Dieu et les chrétiens persécutés vont alors être sauvés et prendre la première place auprès de Dieu. Au chapitre 13, bien, la bête qui est présentée là, elle est présentée par des traits qui suggèrent un lien avec les quatre bêtes du livre de Daniel. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, quand on lit la Bible, on arrive au livre de Daniel, qui est aussi un apocalypse, et on voit qu'il y a des bêtes là-dedans aussi. Et les visions de l'un et de l'autre se rapprochent un peu. Puis, dans le livre de Daniel, c'est clair que ces bêtes représentaient des empires qui opprimaient le peuple hébreu à cette époque-là. De la même façon, la bête dans l'Apocalypse symbolise l'Empire romain qui utilise son pouvoir, sa puissance pour persécuter les chrétiens. On précise d'ailleurs qu'elle a un nom blasphématoire, ça indique que l'Empire romain usurpait les titres, le pouvoir de Dieu. Vous avez sûrement remarqué qu'elle avait 7 têtes, 10 cornes, puis c'est pas des détails innocents, c'est des symboles, puis ça évoque Rome. Je vous dis pourquoi je dis ça, c'est que plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, le verset 9, je vais vous le lire, l'auteur explique cette symbolique-là. « C'est le moment d'avoir l'intelligence que la sagesse éclaire. Les 7 têtes sont les 7 montagnes où réside la femme. Ce sont aussi 7 rois. 5 d'entre eux sont tombés, le 6e règne, le 7e n'est pas encore venu, mais quand il viendra, il demeurera que peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais pour une heure, ils partageront le pouvoir royal avec la bête. Ils n'ont qu'un seul dessein, se mettre au service de la bête, leur puissance et leur pouvoir. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs et roi des rois, et avec lui, les appelés, les élus, les fidèles vaincront aussi. » C'était au chapitre 17 de l'Apocalypse, les versets 9 à 14. Bref, je vous ai lu ça pour vous montrer que les chiffres 7 et 10 sont associés à la bête et ils rappellent le pouvoir de l'Empire romain. On voit, c'est très clairement indiqué, c'est des rois qui règnent et, bon, dans la citation qu'on a lue tout à l'heure, on voyait que la bête faisait toutes sortes de choses horribles et, bon, on voit qu'il y a un lien à faire entre cette bête et l'autorité politique romaine qui attaque les chrétiens. Au chapitre 13 qu'on a entendu, on parle aussi d'une deuxième bête. Ça devient un petit peu compliqué, là. C'est au verset 11. Puis cette deuxième bête-là, si vous vous en rappelez, lorsqu'on l'a lu, elle vient de la terre. Elle parle comme un dragon et oblige les humains à adorer la première bête. Elle met à mort ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Dans l'analogie bête-empire, bien, elle met au ban de la société ceux qui refusent le culte de l'Empire romain. Et on reconnaît cette bête, cette deuxième bête, par un chiffre énigmatique. On a fini la lecture tout à l'heure avec ça. 666. Ce fameux 666 a toujours intrigué les lecteurs de l'Apocalypse. Ça a suscité plusieurs... Il y a eu plusieurs films qui ont été basés sur ce chiffre-là. On la revoit dans tous ceux qui veulent reprendre le symbole du mal, etc. Mais qu'en est-il vraiment? Il pourrait s'agir d'une façon de parler d'un personnage historique sans le nommer directement. Puis le procédé, c'est assez particulier, on n'entend pas beaucoup parler, ça s'appelle de la gématrie. Aujourd'hui, on emploie très peu ça, mais à l'époque, on le faisait beaucoup parce qu'il n'y avait pas de chiffres. Alors, il n'y avait pas de chiffres comme on l'avait en hébreu. Alors, on employait souvent des lettres pour désigner des chiffres. Par exemple, on pourrait dire A égale 1, B égale 2, etc. Alors, le procédé qui s'appelle la gématrie, c'est de prendre des lettres et de faire des chiffres avec ça. Le grand problème, c'est que 666... ça peut être la somme d'une grande diversité de combinaisons de lettres. Alors, tous les exégètes ont sorti leurs différentes hypothèses. Celle qui semble le plus logique, bien, c'est Néron César. Alors, parmi toutes ces possibilités-là, il y a la possibilité que ce soit Néron César en lettres hébraïques. Et Néron, c'était l'empereur romain qui persécutait les chrétiens dans les années 60 après Jésus-Christ. Alors, des auteurs chrétiens de l'Antiquité comme Irénée et Origène vont aussi proposer d'autres noms possibles. Il y en a un, c'est Laténos, qu'on peut traduire par latin. Là, une autre d'origine, c'est Titan, Titan, qui sont aussi des façons symboliques de parler du pouvoir de l'Empire romain. Alors donc, toutes ces hypothèses-là lient les bêtes et le pouvoir de l'Empire romain. On comprend l'auteur du livre de l'Apocalypse de ne pas utiliser le nom de l'empereur par crainte de représailles, tout simplement. Il aurait pu marquer Néron César et toutes les choses horribles qu'il fait. Sauf que il aurait probablement souffert encore plus de persécutions et c'est pas ce que l'auteur recherchait. Alors donc, il a fait cette espèce de symbole pour nous parler de lui sans qu'on s'en rende compte. Je sais pas si vous avez lu la collection des Harry Potter ou regardé ces films-là, mais il y a une analogie à faire avec tout ça. Le tyran dans cette série-là, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, les personnages ne veulent pas le prononcer parce que le simple fait de nommer cette personne-là amène malheur sur eux. Ben, c'est un petit peu la même chose dans ce cas-là. Alors, pour ne pas nommer l'empereur, ben, on va inventer cette figure de la bête qui fait toutes sortes de choses et par les symboliques, on va comprendre que c'est lui. Donc, l'espoir des chrétiens, c'est que Dieu renverse le pouvoir de ces bêtes-là, de ces tyrans-là. C'est un mythe libérateur. On veut se libérer de cet empereur. La suite du livre de l'Apocalypse montre le jugement et la destruction de cet empire-là. Si vous aimez les récits pleins de violence, de sang, vous avez juste à lire la suite de l'Apocalypse, les chapitres qui suivent. Il y en a pour tous les goûts, des étoiles qui tombent du ciel puis qui détruisent la terre en tombant, de l'eau qui se transforme en sang, des guerres, etc. Vous aurez juste à ouvrir vos pages, vous allez les voir tout de suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça finit pas comme ça. À la fin, le tout se termine par la victoire du Christ et l'avènement d'une nouvelle cité sainte, la Jérusalem céleste. Ça, c'est le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse qui parle de la Jérusalem céleste. Je vais vous lire un court passage qui est vers la fin du livre, le chapitre 21, les versets 3 à 4, qui nous parle justement de cette Jérusalem céleste. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a un espoir dans tout ça. « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples. Il lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. » Apocalypse 21, les versets 3 et 4. Vous voyez avec ce bref passage qu'on comprend que l'Apocalypse, c'est un livre d'espoir pour les chrétiens. Suite à toutes les souffrances, à toutes les persécutions, bien, il y a cette Jérusalem céleste qui arrive là, un monde où il n'y a plus de souffrance, plus de mort, un monde avec Dieu. Je termine par une courte réflexion pour nous aujourd'hui. Quand on lit ça, est-ce que ça peut nous faire réfléchir? Bien, lorsqu'on regarde la situation sur la planète aujourd'hui, en particulier ce qui se passe toujours au Moyen-Orient, on peut rêver à cette Jérusalem céleste, où la souffrance, la mort n'existent plus. On aimerait bien ça, surtout quand on voit qu'à Jérusalem même, il y a des morts, il y a de la guerre. Certes, c'est une utopie, mais des fois, il faut avoir des utopies, c'est nécessaire pour nous faire avancer, pour indiquer dans quelle direction on doit travailler. Oui, il y a de la violence dans notre monde, comme il y en avait à l'époque pour les martyrs chrétiens dans l'Empire romain. Eh bien, cette souffrance fait naître un ardent désir de paix. L'Apocalypse nous dit qu'au-delà de nos souffrances, il y a un monde de paix possible avec Dieu. Ce texte apparemment insolite, bizarre, violent, peut être compris comme un texte libérateur pour ceux et celles qui vivent encore aujourd'hui l'oppression, l'exclusion. En particulier, je ne sais pas si vous connaissez la théologie de la libération. Ça, c'est une théologie qui se fait en Amérique latine, qui trouve ses racines dans la Bible, et en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Et ils lisent ce livre-là avec un espoir qui les motive à travailler à la libération des esclavages modernes, dont la pauvreté. Donc, l'Apocalypse peut devenir une clé de transformation de notre monde pour qu'il tende vers le royaume de Dieu. Alors, si je vous repose la question du début, l'Apocalypse, destruction ou espoir? Mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de l'espoir là-dedans. Alors oui, il y a de la destruction, on le voit, c'est très clair, mais c'est pas de la destruction pour le fin de tout détruire. Il y a un espoir au bout de tout ça. En cette fin d'émission et de série d'émissions, j'espère que vous avez apprécié d'oser mettre la lumière sur des récits bibliques qui sont souvent mis de côté. Pour aller plus loin, je vous suggère mon livre « Mais d'où vient la femme de Caïn » que j'ai publié chez Novalis et Mediapol. Vous pouvez retrouver la série d'émissions en podcast ou balado-diffusion sur le site biblique pour lequel je travaille. Alors donc, c'est très pratique si vous voulez réécouter des émissions qui vous ont intéressé ou pour écouter ceux que vous avez ratés, je vous donne l'adresse. Le nom du site, c'est Interbible. L'adresse, c'est www.interbible.org. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette série d'émissions, notamment Alain Primo, notre fidèle technicien, et Marie et Andréane Laferrière pour leur lecture. Mais surtout, merci à chacune d'entre vous qui avez pris le temps d'écouter de façon attentive pour essayer d'explorer la Bible d'une autre façon. C'était Sébastien Donde, bibliste, qui vous souhaite de continuer d'explorer cette Bible et de la lire par vous-même.